à Washington. À très bientôt dans Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 31 juillet 2024. Massacre de 2009 en Guinée, l'ex-dirigeant militaire d'Addis Camara, condamné à 20 ans de prison, il a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité. L'Angola a annoncé hier un accord de cessez-le-feu dans l'est de la RDC entre Kinshasa et Kigali. Dadi Salé, analyste politique, nous donnera les clés de lecture de cet accord dans la partie magazine.
Quand on négocie avec Kigali, ça signifie que le M23 peut dire facilement que ben, ça ne l'engage pas. Et quand vous négociez avec le M23, ben, Kigali peut dire que ça ne l'engage pas non plus.
On retrouve l'analyste dans la partie magazine. L'assassinat du chef du Hamas en Iran soulève les craintes d'un embrasement régional. Ne manquez pas le journal des Jeux Olympiques de Paris. On commence par le journal. L'ex-dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, a été condamné aujourd'hui à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, a annoncé le tribunal. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
L'homme qui a dirigé la Guinée pendant un an vient d'être condamné à 20 ans de prison. Moussa Dadis Camara est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, une première pour la justice guinéenne de juger un ancien président. Son ancien aide de camp, Aboubakar Toumba Diakité, lui aussi condamné pour les mêmes crimes, écope de 10 ans de prison. L'audience de ce mercredi s'est déroulée en présence de 10 des 11 accusés. Le 11e Claude Pivi, ancien ministre de la Sécurité présidentielle, est toujours recherché depuis son évasion de prison en novembre 2023. Seulement 4 accusés ont été acquittés, dont l'ancien ministre de la Santé. Le 28 septembre 2009, une manifestation de l'opposition a été réprimée par les forces de sécurité. Au moins 156 personnes ont été tuées, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale. Zakaria Camara, pour VOA Afrique, Conakry.
En Côte d'Ivoire, 2 personnes sont mortes lors d'une opération de démolition et d'expulsion dans un quartier d'Abidjan. La semaine dernière, a indiqué aujourd'hui le porte-parole du parti au pouvoir. Jeudi, des échauffourées avaient opposé forces de l'ordre et habitants du quartier populaire d'Adjamé Village, pendant que des engins de chantier détruisaient maisons et commerces pour la construction d'une route. Au Cameroun, l'activiste Junior Ngombe a été provisoirement remis en liberté ce mercredi après son arrestation la semaine dernière pour incitation à la rébellion et propagation de fausses nouvelles. Junior Ngombe a obtenu la liberté sous engagement de garant au tribunal militaire de Yaoundé, où il était déféré. Junior Ngombe, 23 ans, coiffeur et activiste sur les réseaux sociaux, a été arrêté le 24 juillet devant sa boutique à Douala par 3 hommes en civil qui prétendaient travailler pour les services de renseignement, selon l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. L'Angola a annoncé hier nuit un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise et la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda au nord Kivu. Les détails avec Claire Morégibou.
L'annonce a été faite hier soir par la présidence angolaise qui assure la médiation. La deuxième réunion qui s'est tenue à Luanda a abouti à l'établissement d'un cessez-le-feu qui prendra effet à minuit le 4 août 2024. Ce cessez-le-feu sera supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc qui sera renforcé, a précisé Luanda en référence au système de pacification déjà créé en réponse aux violences. Aucun autre détail sur la mise en œuvre de ce cessez-le-feu n'a été communiqué. L'accord doit intervenir à la suite d'une trêve humanitaire de 15 jours qui arrive à échéance le 3 août à 23h59. Annoncée par Washington le 5 juillet dernier, les 2 premières semaines dites de trêve humanitaire n'ont pas été respectées. 4 civils ont notamment été tués le 15 juillet dans un bombardement à Bweremana, situé à 15 km à l'ouest de Goma. Selon les Nations Unies, plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées dans la province du Nord Kivu, portant à plus de 7 millions le nombre de déplacés par les multiples conflits dans le pays.
Le général Abdel Fattah al-Burhan, commandant de l'armée soudanaise et dirigeant de facto du pays, a échappé ce mercredi à une attaque de drones sur une base de l'est du Soudan, ravagée par la guerre civile et exclue de toute négociation avec les paramilitaires. L'armée a fait état de 5 morts suite à une attaque de drones sur la base de Djibet, où le général Burhan assistait à une cérémonie de remise de diplôme à une centaine de kilomètres de Port-Soudan, devenue la capitale de facto du gouvernement fidèle à l'armée. L'Algérie prendra d'autres mesures contre la France après l'annonce de l'appui de Paris au plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental, a annoncé aujourd'hui le chef de la diplomatie algérienne. Rabat, qui contrôle de facto près de 80% du Sahara occidental, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que les indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclament un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité internationale, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué par une frappe aérienne ce matin à Téhéran. L'Iran et le Hamas accusent Israël d'un assassinat choquant qui risque d'aggraver le conflit, alors que les États-Unis et d'autres pays s'efforcent d'empêcher une escalade dans la région. Davantage avec Alexandre Nolognon.
Ismaël Haniyeh était en Iran pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président, Massoud Pezeshkian. Il a été tué en pleine nuit par une frappe aérienne contre la résidence où il était logé, dans un quartier chic, dans le nord de Téhéran. Haniyeh est né en 1963 dans le camp de réfugiés d'Al-Shati. Dans sa jeunesse, il était membre de la branche étudiante des Frères musulmans et a rejoint le Hamas en 1987, lorsque le groupe a été fondé, après le déclenchement de la première intifada. Il a été emprisonné par Israël à plusieurs reprises, puis expulsé vers le sud du Liban. Et plus récemment, il avait vécu en exil et partagé son temps entre la Turquie et le Qatar. En 2003, Haniyeh et le fondateur du Hamas, Cheikh Ahmad Yassin, ont survécu ensemble à une tentative d'assassinat. Puis il a été élu à la tête du Hamas en 2017 pour succéder à Khaled Meshal. Mais était déjà bien connu après être devenu premier ministre palestinien en 2006, à la suite de la victoire surprise du Hamas aux élections parlementaires. Un an après, en 2007, le mouvement islamiste palestinien a pris le contrôle total de la bande de Gaza. Pour le moment, Israël n'a fait aucun commentaire sur la mort du leader du Hamas.
La mort du chef du Hamas suscite de nombreuses réactions à travers le monde. Voici une synthèse de ces réactions avec Mohamed Oumfa.
Sans commenter directement la mort du chef du Hamas, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lors d'un forum à Singapour, a souligné que rien ne remet en question l'importance de parvenir à un cessez-le-feu, assurant que les États-Unis n'ont pas été mis au courant ni ne sont impliqués dans l'attaque à Téhéran. En Iran, le tout nouveau président Massoud Pezeshkian a accusé Israël d'être responsable et juré de lui faire regretter cet acte lâche. Le ministère irakien des Affaires étrangères a dénoncé une violation flagrante du droit international, estimant que cette attaque menace la sécurité et la stabilité de la région. Le Qatar, qui accueille la direction politique du Hamas, a condamné un crime odieux et mis en garde contre une escalade dangereuse dans la région. En Cisjordanie occupée, les mouvements palestiniens ont appelé à une grève générale, la Chine a condamné un assassinat et la Russie a estimé que de tels actes peuvent considérablement déstabiliser une situation déjà tendue.
Les manifestations se sont poursuivies ce mardi au Venezuela contre les résultats de l'élection présidentielle qui donne un troisième mandat au président socialiste sortant Nicolas Maduro, alors que la communauté internationale s'inquiète de l'intégrité du scrutin. De nombreux pays ont demandé au Venezuela de rendre public le décompte des voix et Washington envisagerait de nouvelles sanctions à l'encontre de personnes liées à l'élection. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a déclaré pour sa part ce mercredi que Bruxelles ne pouvait pas reconnaître le résultat tant que tous les votes n'auraient pas été comptés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dans un entretien accordé à plusieurs médias français que le monde entier dont l'Ukraine voulait que la Russie participe à un prochain sommet de la paix. L'Ukraine avait organisé en Suisse, en juin, un sommet pour la paix en Ukraine avec quelque 90 pays, essentiellement des alliés. La Russie en avait été exclue et du coup, la Chine, poids lourd diplomatique et proche de Moscou, avait refusé d'y participer. Le président russe Vladimir Poutine a doublé ce mercredi la prime versée aux volontaires qui rejoignent le front ukrainien, une mesure visant à faciliter le recrutement, mais qui risque de pénaliser une économie déjà en surchauffe. Les autorités russes affirment qu'environ 190 000 personnes se sont portées volontaires depuis le début de l'année pour combattre en Ukraine contre 490 000 contrats signés en 2023. Et puis en Inde, des glissements de terrain consécutifs à de fortes pluies de mousson ont dévasté des plantations de thé dans le sud du pays et fait au moins 160 morts, selon un nouveau bilan communiqué ce mercredi. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, le journal des Jeux Olympiques avec Eric Manirakiza.
Au cinquième jour des Jeux Olympiques de Paris 2024, au moins 45 pays ont déjà remporté au moins une médaille au JO. La Chine en a gagné 16, dont 8 en or, tandis que les États-Unis en comptabilisent 27, dont 4 en or. La France, de son côté, a remporté 21 médailles, dont 6 en or. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui se distingue avec 3 médailles, dont une en or. La Tunisie et l'Égypte ont chacune obtenu une médaille de bronze. Il faut aussi noter la première médaille d'or de l'histoire du Guatemala à la fosse olympique féminine. Les triathlètes ont enfin pu plonger ce mercredi, quelques heures après les femmes. Après des mois de doute autour de la qualité de l'eau de la Seine et un premier report embarrassant, les deux épreuves ont bien eu lieu ce mercredi. Un soulagement pour les sportifs, les organisateurs et les autorités, passés entre les gouttes d'un orage mardi soir. La course masculine devait initialement avoir lieu mardi matin. Le Britannique Alexis, qui figurait parmi les favoris à décrocher l'or olympique du triathlon ce mercredi à Paris, 3 ans après avoir récolté l'argent à Tokyo. Les deux meilleurs coureurs du circuit, Yi, 26 ans, et Wild se sont alors rapidement détachés. Si Wild a pris les devants, le Britannique a repris des forces et l'a rattrapé avant de le lâcher irrémédiablement. Ils étaient une trentaine de triathlètes à terminer ensemble la partie vélo. Ces JO sont enrichis par la participation de divers artistes qui présentent des spectacles. Suivez Yacine Amono, artiste d'origine algérienne.
Effectivement, les communes et la ville de Paris notamment essayent effectivement de faire appel à des artistes, que ce soit de danse, de musique, mais également d'art plastique, également des créateurs, que ce soit des créateurs de vêtements, des créateurs de sculptures, et de présenter ça en fait directement aux différents auditeurs, spectateurs et tout spectateur qui viendrait en fait participer ou regarder des épreuves. Donc les artistes là-dessus, ils participent par cette animation des épreuves sportives. Parce que le sport c'est bien, mais effectivement pour l'embellir, pour le rendre plus accessible, on va faire appel à des artistes pour essayer de sensibiliser certains publics qui n'ont pas l'habitude à certains sports qui n'ont pas l'habitude en fait de voir. Donc ça, là-dessus, c'est assez intéressant. Ça a permis aussi de faire des mélanges et de mélanger certains styles artistiques qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Je pense par exemple à Aya Nakamura et la Garde républicaine, qui c'est deux mondes différents qui se sont liés. La place de l'artiste, c'est ça en fait dans les JO, c'est le fait d'animer, de rendre la chose universelle et de pouvoir tout simplement rendre vivant en fait ce qui ne l'est pas forcément, et puis faire découvrir également de nouveaux sports à un public qui n'a pas l'habitude.
En athlétisme, la double vice-championne du monde jamaïcaine du 100 mètres, Sherika Jackson, a annoncé ce mercredi son forfait pour cette épreuve au JO de Paris et ne souhaite disputer en individuel que le 200 mètres. Jackson, cinquième femme la plus rapide de la saison, faisait partie avec l'américaine Shakari Richardson, des grandes favorites pour succéder sur la ligne droite à sa compatriote Helen Thompson, era absente. Âgée de 30 ans, la Jamaïcaine compte déjà 5 médailles olympiques à son palmarès.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué ce mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement islamiste palestinien et par l'Iran qui ont promis de venger sa mort, faisant craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza. Pour une analyse, Mouamadou Mfa a joint le professeur Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques en France.
L'assassinat ciblé de Ismaël Haniyeh est un coup très dur qui est porté au Hamas, puisque nous savons que cet homme était un des responsables politiques du Hamas, un des dirigeants et le principal dirigeant du bureau politique de ce mouvement. Ça affaiblit donc considérablement le Hamas, en plus des pertes militaires qu'il subit depuis maintenant des semaines et des mois sur la bande de Gaza à proprement parler. Deuxième aspect, cet assassinat montre qu'en réalité, l'État d'Israël ne cherche absolument pas à faire aboutir quelques négociations que ce soit, puisque celui qui incarnait justement l'aile politique a été assassiné. Alors certes, l'assassinat n'a pas encore été revendiqué par l'État d'Israël, mais je pense que là, il y a assez peu de doutes pour connaître le commanditaire de cet assassinat ciblé.
Vous parlez justement de l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'Israël a des raisons de s'inquiéter, notamment d'une réaction de l'Iran, puisque l'assassinat a été perpétré sur le sol iranien?
Je ne vois pas comment les Iraniens pourraient rester l'arme au pied sans riposter. Ceci étant, les dirigeants iraniens ont de multiples possibilités de riposte. Ça peut être des ripostes strictement militaires, par des envois de missiles, de roquettes sur le territoire israélien. Ça peut être aussi des attentats ou des attaques contre des intérêts israéliens dans d'autres pays. Donc nous ne sommes pas à l'abri, évidemment, d'une escalade, mais qui ne se traduira pas forcément par des échanges militaires directs entre l'Iran et Israël. Il m'apparaît assez clair que les dirigeants iraniens ne peuvent pas laisser impuni l'assassinat du principal chef du Hamas qui était à Téhéran, et le symbole est quand même lourd pour les Iraniens de leur échec en termes de capacité de protection de ce dirigeant du Hamas.
Au-delà de la situation à Gaza et d'une éventuelle réaction de l'Iran, est-ce que la mort du chef du Hamas peut avoir des conséquences sur la région ou de manière générale?
C'est bien là le problème et c'est bien là le grand risque, hein, comme vous le soulignez, parce que, comme on vient de l'évoquer, les Iraniens ne peuvent pas rester sans riposter. Mais les Iraniens n'ont pas intérêt à jouer le jeu de l'escalade, parce qu'ils savent très bien que s'ils ripostaient massivement contre Israël, eh bien les États-Unis immédiatement viendraient à la rescousse de l'État d'Israël. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'une sorte d'embrasement régional, d'autant qu'on le sait, il y a un dirigeant du Hezbollah qui a été assassiné quelques heures avant l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Donc que va faire le Hezbollah? Lui aussi, jusqu'alors, ne cherchait pas la logique de l'élargissement du conflit. Mais l'assassinat répété des dirigeants du Hezbollah ne peuvent pas non plus rester sans riposte de la part de ce dernier. Donc on est dans une situation infiniment préoccupante, ça c'est incontestable.
Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques en France.
Dans tous ces pays, si on occupe les jeunes, ils ne seront pas des terroristes.
VOA Afrique vous propose une émission spéciale explorant les enjeux sécuritaires du Sahel, notamment l'instabilité politique.
Le système sénégalais a survécu à quel coup? Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Et s'il n'y avait pas eu ce petit déclic de dernière minute, où serait le Sénégal aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le reste de l'Afrique?
Les crises humanitaires.
On pense toujours que c'est l'étranger, l'étranger. Mais en nous-mêmes, est-ce que nous sommes prêts?
Les défis de la gouvernance et le rôle des acteurs internationaux. Nos invités analysent les dynamiques affectant le bien-être des populations sahéliennes et proposent des pistes de solutions possibles.
La médiation angolaise vient d'annoncer un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise et la rébellion du M23. Est-ce que cela change de narration de la part de Kigali, qui a toujours nié sa présence dans l'est de la RDC? Rosine Monizero a joint Dadi Saleh, analyste politique et professeur en stratégie de développement pour les pays du Sud.
Normalement, ça devait changer, mais bon, malheureusement, on sait que c'est plutôt une, ce que j'appelle la politique d'Autriche, parce que il y a assez de preuves pour prouver au moins qu'il y a des militaires rwandais en République démocratique du Congo et ougandais. Il y a des rapports non seulement de l'ANR, service de renseignement de la RDC, mais aussi des Nations Unies et de la société civile. Ce qui fait que Kigali, la dernière fois, n'a pas non plus nié. Kigali a dit plutôt que Kigali renforcera ses troupes en République démocratique du Congo. Donc je pense que pour moi, ça, ce n'est plus une grande question vraiment d'actualité. Kigali a déjà accepté qu'ils sont en République démocratique du Congo, même s'il n'y a pas de sanctions jusque-là.
Et pour le moment, est-ce qu'il y a une réaction des rebelles du M23?
Non, à ma connaissance, il n'y a aucune réaction officielle, je dis bien à ma connaissance, et on est quand même sur terrain, et qu'effectivement, la plupart des fois, c'est normal parce que c'est un jeu entre Kigali et le M23, tout simplement parce que quand ça ne va pas arranger le M23, ce qui fait que ils ne vont rien respecter parce que disant que ce n'est pas eux qui ont été consultés. Donc c'est une politique qui marche malheureusement pour Kigali et ça ne va pas pour la République démocratique du Congo. Parce que quand on négocie avec Kigali, ça signifie que le M23 peut dire facilement que ça ne l'engage pas. Et quand vous négociez avec le M23, Kigali peut dire que ça ne l'engage pas non plus. Donc là, c'est un peu ce que je peux appeler couteau à double tranchant, les négociations directes entre Kigali et la République démocratique du Congo. S'il n'y a pas la sincérité et s'il n'y a pas une pression, alors c'est vraiment un jeu de polichinelle. C'est vraiment un jeu qui ne va rien apporter, malheureusement.
Justement, l'Angola avait déjà annoncé une trêve et à l'époque, comme vous le dites, le M23 avait dit ne pas être concerné. Alors, quelle sera, selon vous, la portée de cette nouvelle trêve?
Je pense qu'elle ne va pas... Elle devait apporter grand-chose, mais elle ne va pas apporter grand-chose parce que si on prend déjà ce qu'il y a comme trêve avec les Américains, on parle quand même des Américains, c'est-à-dire la grande puissance militaire qui a un accord avec tout le monde, le Rwanda, la République démocratique du Congo, 15 jours, renouvelé deux fois pour qu'il y ait des cessez-le-feu de trêve, mais ça n'a pas été respecté sur terrain. Donc, je ne pense pas que maintenant, cette trêve de l'Angola pourra être facilement respectée.
Dadi Saleh, professeur en stratégie de développement pour les pays du Sud.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, la justice a rendu le verdict dans le procès du massacre de septembre 2009. Les faits ont été requalifiés en crime contre l'humanité. Claude Pivier est condamné à la prison à perpétuité. Dadis Camara et Tiboro Camara à 20 ans et Toumba Diakité à 10 ans. 156 personnes avaient été tuées, des centaines blessées et 109 femmes violées dans la répression contre un rassemblement de l'opposition. Nathalie Bage a joint Asmaou Diallo, présidente de l'association qui défend les victimes et leurs familles depuis près de 15 ans.
Je peux dire que j'étais super contente. D'abord, au début, je ne me sentais pas bien. Je me demandais est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va nous mettre à l'aise. Mais au fil des débats, je suivais. Alors, j'ai compris que les choses changent. Et jusqu'à la fin, lorsqu'il y a eu les condamnations, lorsqu'il y a eu tout ce que le président de la Cour a donné comme argument et tout, et c'est là que j'ai compris que vraiment, je pouvais vraiment m'attendre à quelque chose de bon. Et lorsqu'ils ont dit tel est condamné à tel nombre d'années, on a compris qu'ils ont pris toutes les revendications de nos avocats et tout ce que nous avons demandé. Ils sont vraiment très à l'aise. Et les victimes aussi sont vraiment très à l'aise.
Est-ce que le verdict correspond à vos attentes?
Nos attentes, c'était d'avoir une vérité et surtout qu'il y ait des condamnations. Donc, le verdict qui est tombé aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose que nous attendions depuis le début du procès. Et on se demandait est-ce que la justice guinéenne va continuer à travailler correctement pour rendre une justice pour les victimes. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. C'est un verdict qu'on attendait.
15 ans après les faits, la justice a été rendue. Qu'est-ce que cela représente pour la Guinée?
Les 15 ans, nous avons été toujours disponibles durant toutes ces années pour réclamer une justice. Et aujourd'hui, c'est fait. Et je suis sûr que le gouvernement guinéen peut être à l'aise parce que c'est cette transition qui a eu le temps et le courage d'ouvrir le procès durant ces années. Et lorsque la transition est arrivée, elle a eu vraiment le courage pour ouvrir le procès, pour rendre justice pour les victimes. Et nous les remercions énormément. Et en plus, je suis sûr qu'aujourd'hui même, le gouvernement actuel doit être vraiment très satisfait parce que ce qui est fait, tout va retomber sur eux parce qu'ils diront que c'est le gouvernement de la transition de Doumbouya qui a ouvert le procès du 28 septembre. Et voilà, maintenant, en sentence qui est tombée, nous sommes vraiment satisfaits.
Asmaou Diallo, présidente d'AVIPA, l'association des victimes, parents et amis des victimes de septembre 2009 en Guinée.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Direction la Centrafrique, depuis quelques semaines, la ville de Bangui enregistre une vingtaine de cas de la variole du singe, Mpox, dans certains quartiers de la capitale. Cette recrudescence de la maladie crée une inquiétude au sein de la population. Pour en savoir davantage, Sylvie Doris Soyé-Koumé, adjoint à Bangui, le ministre centrafricain de la Santé publique, Pierre Somsé.
Tout à fait, nous sommes face à une épidémie urbaine de monkeypox, communément appelée en français variole du singe, qui est une maladie connue, qui jusqu'ici était une maladie qui était surtout prédominée surtout en zone rurale, dans les communautés qui vivent beaucoup plus de la cueillette, de la chasse. Et donc chaque année, en République centrafricaine, on ne dénombrait pas plus de 10 cas par an. Et voici que subitement, la semaine dernière, nous avons déjà dénombré une dizaine de cas, et ceci en moins d'un mois. Donc voilà, donc là où on en est, il s'agit donc d'une épidémie urbaine, et c'est ce qui fait la gravité de l'épidémie actuelle en pleine capitale, un risque d'une propagation rapide, étant donné l'intensité de la vie communautaire, la vie commerciale.
Quels sont les symptômes, oui, docteur?
Bon, les symptômes, c'est des éruptions sur le corps, on dit pustuleuses, des boutons qui, au bout, portent des points brillants qui donnent l'impression que c'est du pus. Et ces boutons, l'apparition de ces boutons est aussi accompagnée de fièvre et d'apparition de ganglions. Il y a des manifestations caractéristiques de la variole de singe qui distinguent la variole de singe de la vraie variole donc, que nous connaissons, historique, que nous connaissons, que ces éruptions-là apparaissent aussi dans la paume des mains et la plante des pieds. Voilà comment elle se manifeste et elle peut évoluer vers la mort en passant par des complications respiratoires, des complications cutanée, au niveau oculaire, c'est de là.
Elle est contagieuse?
Mais bien sûr, c'est ça la caractéristique. C'est une maladie hautement contagieuse. Elle se transmet d'abord de l'animal à l'homme. Et donc, c'est le mode originel de propagation. Et dans notre contexte, la population vont donc chasser avec des méthodes traditionnelles et donc C'est comme ça qu'ils s'alimentent et la manipulation des substances des animaux infectés est la source de contamination.
Je voulais savoir si vous avez des mesures de prévention mises en place par le ministère de la Santé publique en RCA.
Oui, donc aujourd'hui, nous avons lancé une riposte qui vise trois objectifs. C'est de circonscrire l'épidémie. Et deuxièmement, il faut faire de telle sorte qu'on limite la propagation de la maladie, c'est-à-dire qu'il s'agit de dépister. Et troisièmement, qu'il s'agit aussi de limiter l'impact sur les individus et les communautés, notamment éviter les décès.
Docteur Pierre Somsé, ministre centrafricain de la Santé, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.